VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Burkina Faso, l'opposition exige depuis mardi une enquête indépendante sur les attaques qui ont fait 43 morts dimanche dans trois villages peuls du nord du pays. Le point avec Bagassi Koura.
L'opposition s'est dite indignée par le massacre de 43 civils. Au regard de la gravité de ce drame et de la confusion qui l'entoure, l'opposition exige une enquête indépendante, a déclaré Amadou Diemdjoda Diko, vice-président de l'Union pour le progrès et le changement, lors d'une conférence de presse qui avait réuni toute l'opposition. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé affirmait que ce crime de masse a été perpétré par des individus armés non identifiés. Alors que de son côté, des sources locales jointes par l'AFP, les assaillants sont des groupes d'autodéfense qui agissent en représailles aux attaques djihadistes. Le gouvernement a aussi souligné que le procureur du Faso avait été saisi pour toute fin utile. La présidence a décrété lundi un deuil de 48 heures en hommage aux 43 civils tués dimanche dans plusieurs attaques dans le nord du pays en proie à de fréquentes attaques djihadistes. En plus, les tensions y dégénèrent périodiquement en violences intercommunautaires.
Toujours concernant le combat anti-djihadiste, au Mali voisin, le leader djihadiste Iyad Ag Ali veut négocier. Il l'a fait savoir le week-end dernier en réponse aux demandes incessantes de dialogue du gouvernement malien. Mais Iyad Ag Ali pose des conditions, notamment le retrait des troupes étrangères du Mali. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako.
Déjà, il est important de rappeler que cette position de Iyad Ag Ali favorable à une discussion avec des pouvoirs publics n'est pas nouveau. On se rappelle en 2012, avec la médiation internationale qui était conduite à l'époque par Blaise Compaoré, il avait été question de discussion avec Al-Sardine et des contacts avaient été établis à l'époque entre lui, l'envoyé de Blaise Compaoré, et à cette époque, il s'était dit favorable à un dialogue politique avec les autorités maliennes. Donc, ce n'est pas véritablement nouveau. Et en plus, dans son communiqué la semaine dernière, il expliquait qu'il y avait une convergence de vues entre leurs positions relatives au départ des forces étrangères et celles largement exprimées par certaines populations maliennes. Donc, véritablement, on peut dire que déjà, il y a un antécédent. En plus, les voix de plus en plus affichées de certains Maliens contre la présence étrangère a favorisé cette prédisposition de Iyad Ag Ali.
Et est-ce que c'est la seule condition, le départ des troupes étrangères?
En réalité, dans son message, cette condition est beaucoup plus présentée comme une convergence de vues entre lui, Iyad Ag Ali, et certaines opinions maliennes favorables au départ des forces étrangères. Mais il est important de préciser également qu'aujourd'hui, c'est l'étape des discussions, une étape qui ne doit pas être confondue avec l'étape des négociations proprement dites et qui doit porter sur des sujets beaucoup plus concrets. Mais véritablement, il y a une phase aujourd'hui qui est celle des discussions et la question de la négociation doit être pensée dans une autre phase.
Discuter, négocier, discuter de quoi ?
Justement, ce qui doit être identifié dans la seconde étape qui, comme tu le disais, est celle qui doit intervenir après l'étape du dialogue. Mais déjà, il est très important de sortir ce processus de dialogue de son approche statocentrique qui vise principalement les leaders des groupes, notamment Iyad Ag Ali, Amadou Koufa, pour s'intéresser de façon beaucoup plus locale à ce qui anime aujourd'hui cette protestation et cette insurrection armée.
Est-ce qu'on a un début d'idée de ce que veut Iyad Ag Ali ou les groupes armés? Est-ce que c'est une partie du territoire malien? Est-ce que c'est le partage du pouvoir à Bamako? Est-ce qu'on a une idée un peu?
Je pense que depuis 2013, donc depuis la campagne militaire franco-africaine, la volonté de ces groupes de contrôler ou d'installer une califat sur une partie du territoire de l'État du Mali ou même ailleurs dans le Sahel est résolue. On est beaucoup plus dans des revendications politiques, donc qui rejoignent le fait de la compréhension de ce domaine au-delà du prisme religieux. Pour dire qu'au cœur des griefs, au cœur de la revendication armée, ce sont des questions liées à la gouvernance qui sont mises en avant. C'est également des questions qui sont mises en avant quand on discute avec les combattants de ces groupes-là. Donc on peut dire que la question de l'islam, l'application de la charia, peut être la bannière sur laquelle en réalité existe deux types de motivations qui sont beaucoup plus politiques qu'idéologiques.
Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako au Mali.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Tanzanie, 9 opposants tanzaniens dont des députés ont été condamnés hier mardi à une forte amende ou à 5 mois de prison ferme pour avoir organisé une manifestation interdite en 2018. Les précisions de Nanit Talani.
Les accusés, dont le président du parti Chadema, Freeman Bowi, 4 députés et 4 autres opposants, ont été placés en détention provisoire car ils n'ont pas pu payer l'amende de 350 millions de shillings tanzaniens, soit 152 000 dollars américains fixés par le juge. Nous sommes allés au tribunal en croyant que nous pouvions gagner. Cependant, cette condamnation ne nous empêchera pas de nous battre pour la démocratie dans ce pays, a déclaré le vice-président du parti, Saïd Issa Mohamed, après le verdict. Selon lui, le Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, essaie de réunir les fonds nécessaires et envisage de faire appel. En 2018, Freeman Bowe et les autres condamnés avaient été accusés de rébellion, de rassemblement interdit et d'incitation à la violence à l'occasion d'une manifestation interdite au cours de laquelle la police avait tiré à balles réelles pour disperser les partisans de Chadema. Un étudiant de 22 ans qui ne participait pas à la manifestation avait été tué par une balle perdue de la police.
Coronavirus en Afrique, la République démocratique du Congo a enregistré son premier cas confirmé de COVID-19 selon les autorités sanitaires du pays. Le point avec Idi Sango.
Le patient est un Congolais de 52 ans vivant en France, récemment retourné à Kinshasa, la capitale congolaise. Le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a indiqué à VOA Afrique que le malade est présentement mis en isolement dans un hôpital de la place et que tout était fait pour retrouver toutes les personnes contact. Le gouvernement appelle à ne pas paniquer et demande aux citoyens une stricte observance des règles d'hygiène, entre autres les lavages réguliers de mains. Des sites de prélèvement des températures et des examens préliminaires sont installés au poste des frontières. Un camp d'isolement est construit dans la périphérie de Kinshasa pour des cas qui apparaîtront plus tard. La RDC est en train de sortir d'une épidémie d'Ebola qui a, en plus de 2 ans, fait plus de 2264 morts dans l'Est. 3444 cas ont été diagnostiqués, mais il faut attendre 42 jours depuis que le dernier cas a été guéri pour qu'Ebola soit déclaré vaincu en RDC.
Actualité aux États-Unis, course à la présidence côté opposition démocrate. Une semaine après le Super Tuesday et le Super Mardi qui lui a permis de basculer en tête dans la campagne des primaires démocrates, l'ex-vice-président Joe Biden a franchi ce mardi un nouveau pas vers l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine de novembre. Il a infligé un revers majeur à son rival Bernie Sanders dans le Michigan. Le point avec Anne Albertson.
L'ancien vice-président de Barack Obama a remporté la victoire dans cet État attribuant 125 délégués et sur lequel comptait Bernie Sanders pour redonner du coffre à sa candidature. M. Biden décroche aussi la victoire dans le Missouri, le Mississippi et l'Idaho. Dans l'État de Washington, les deux septuagénaires sont donnés au coude à coude après dépouillement de plus des 2/3 des votes. Dans le Dakota du Nord, l'issue reste incertaine. S'exprimant à Philadelphie, Joe Biden a remercié Bernie Sanders et ses partisans pour leur passion et a appelé à l'unité du parti. « Nous partageons un but commun et ensemble nous vaincrons Donald Trump », a-t-il dit, en citant aussi ses anciens rivaux Pete Buttigieg, Amy Klobuchar et Kamala Harris, qui lui ont apporté leur soutien après s'être retiré de la course. « Gagner signifie unifier l'Amérique, ne pas propager davantage de divisions et de colère », a ajouté Joe Biden. Contrairement à ses habitudes jusque-là, les soirs de primaire, Bernie Sanders, retourné dans le Vermont, n'avait pas prévu de s'exprimer publiquement. La prochaine étape de la primaire démocrate aura lieu le 17 mars avec la Floride et ses 219 délégués, l'Illinois 155 délégués, l'Ohio 136 et l'Arizona 67 rendront également leur verdict.
Pour terminer, les opérations anti-djihadistes des Européens au Sahel ne sont ni suffisantes ni assez coordonnées. C'est ce qu'a estimé mardi un haut responsable militaire américain en soulignant que les groupes djihadistes sévissant dans cette région visent davantage l'Europe que les États-Unis. Je pense que l'Europe peut et doit en faire davantage avant que les États-Unis en fassent plus dans cette partie du monde, a déclaré le général Stephen Townsend, le chef de l'AFRICOM, le commandement militaire américain pour l'Afrique, lors de sa déposition à la Chambre des représentants du Congrès sur la posture militaire américaine sur le continent africain. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet. C'est bien sûr voaafrique.com.